Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
What time is it now? Time is it now?
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
Quick going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery.
Yeah!
Go ahead. Goal line. Touchdown.
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 Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 724 du podcast John Actu. Alors, Mathé, très heureux de vous retrouver pour notre preview du Super Bowl. C'est l'heure de s'attaquer au plus gros match de l'année. À mes côtés, Raphaël Masmejean, bonjour.
Salut à tous.
Et Lucas Vola, bonjour.
Salut à tous. Il y a un problème, Alain, je pensais qu'on faisait la preview du Pro Bowl.
Non, il faut même savoir que non, en plus il faut même savoir, si on est honnête, que l'émission est enregistrée avant le Pro Bowl, donc on sait même pas ce qui se passe.
D'accord.
Au moment où vous écouterez, vous saurez ce qui s'est passé au Pro Bowl et vous n'en aurez sûrement pas grand chose à faire de plus que nous au moment où on se passe. D'ailleurs, c'est un match de flag, c'est même plus un match de...
Parlons du Super Bowl alors, du coup.
Allez, parlons du Super Bowl. Le Super Bowl 58 est là. Kansas City Chiefs d'un côté, San Francisco 49ers de l'autre. Qui pour le titre, on va décortiquer les oppositions, les clés du match et bien sûr les pronostics avec mes deux camarades qui sont affûtés sur le sujet, puisque Raphaël a commenté la finale NFC, donc il est au taquet, et Lucas a débriefé avec vous les deux affiches dans le dernier podcast. Donc là, on est vraiment à fond sur l'actualité, messieurs, et c'est parti. On va commencer avec un petit jingle. L'affiche, messieurs, entre les Kansas City Chiefs et les San Francisco 49ers. On va faire très simple dans ce podcast, on va décortiquer en deux. Première partie, quand les Chiefs ont le ballon, ensuite on parlera du moment où les 49ers auront le ballon. Un petit mot sur les équipes spéciales quand même à la fin. Ce sera dans les clés du match qu'on vous donnera avec nos pronostics. On va commencer avec les Chiefs en attaque. C'est arbitraire, ils sont à domicile, je me suis dit on va commencer avec eux qui ont le ballon. Patrick Mahomes en 3 matchs de playoff, messieurs, 68% de passes complétées, 239 yards par match, 4 touchdowns, aucune interception. Il n'a pris que 2 sacs, c'est plus que jamais le Patrick Mahomes show à Kansas City. Est-ce qu'on peut être direct et est-ce qu'on peut dire ils sont pas favoris, mais c'est un match où Patrick Mahomes peut devenir une légende? Lucas.
Oui, ah, clairement, ça ferait son troisième Super Bowl gagné en 6 saisons en tant que titulaire. Forcément, on le compare forcément au Tom Brady, parce que c'est clairement, en tout cas, Patrick Mahomes, il vise d'être le meilleur quarterback de tous les temps. Je pense que c'est le quarterback le plus talentueux de tous les temps. Ça fait pas beaucoup de doutes. Il a énormément de talent et je pense que intrinsèquement, il a atteint un niveau qui parfois était certainement meilleur que Tom Brady. Maintenant, il faut que ça soit validé par des titres. Et par la durée. La durée, c'est forcément les années qui nous le diront. Et les titres, eh ben, il en a déjà 2 et il y a potentiellement un 3e. Ça va faire 4 Super Bowls joués pour lui. Il est à 2-1 pour l'instant. En gagnant, ça serait 3-1. En perdant, ça ferait 2-2. C'est vrai que c'est on va jouer sur des détails comme ça, parce que quand on va classer Patrick Mahomes à la fin de sa carrière, sauf grave blessure et on touche du bois pour lui, il sera très haut, il sera très haut. Donc maintenant, c'est les titres qui vont jouer, et c'est vrai que là, avec une troisième victoire en quatre Super Bowl joués, il rentrerait encore plus dans la légende, et ça ferait vraiment une dynastie.
Il a que 28 ans. Raphaël, sur ce que je disais au début de ma phrase, ils sont pas favoris, est-ce que tu es d'accord ?
Oui, oui, ils sont pas favoris par rapport à tout ce qu'on a vu cette saison, j'ai envie de dire, et le fait que San Francisco, sur le papier, a un peu plus de talent, même on peut le dire. Voilà, après, c'est vrai que si on regarde quand même la dynamique des deux dernières semaines, là, je pense qu'avant les playoffs, on aurait dit la finale, c'est San Francisco Kansas City Chiefs, t'aurais peut-être mis les 49ers à 60-65%. Là, après les playoffs, après les trois matchs de Kansas City, on se rapproche quand même du 50-50. Même si 49ers reste favori, on se rapproche d'un 50-50. Donc, attention, la tendance, c'est pas encore inversé, mais le train arrive vite.
C'est pour ça que je te demande si t'es d'accord, et je vois que Lucas hoche la tête. J'aime bien cette idée que visiblement, non, il n'y a pas l'air d'y avoir trop de favoris pour Lucas.
Ouais, c'est ça, c'est dur. Je peux pas te donner tort quand tu dis qu'ils sont pas favoris, et en même temps, j'ai du mal à donner les 49ers favoris. Donc en fait, dans ce match-là, j'ai l'impression qu'il y a pas de favoris, et quand on regarde les cotes, c'est assez marquant. Et alors forcément, il y en a une un petit peu plus basse que l'autre, mais c'est vrai que c'est dur, parce que Raph l'a dit, le talent, il est peut-être du côté plus globalement des 49ers, et en même temps, il y a l'expérience, il y a le fait que c'est dur de parier, comme à l'époque, et je fais la même comparaison, mais comme à l'époque avec les Patriots et avec Tom Brady, c'est dur de parier contre les Chiefs et Patrick Mahomes, c'est dur de les imaginer perdre dans un gros match de playoff, dans un match très important. Ils le prouvent depuis deux matchs, trois matchs, même eux, pour eux, en playoff. Donc c'est vrai que c'est, encore une fois, je peux pas dire qu'ils sont favoris, comme l'a dit Raph, mais en même temps, j'ai du mal à me dire qu'ils arrivent en outsider ou que les 49ers sont favoris. Donc, et vous comprendrez du coup que je suis très tiraillé quand on va me demander un pronostic.
En tout cas, c'est intéressant de voir qu'il y a finalement plus d'équilibre. Mahomes, je le disais, donc peut gagner son troisième titre. Pour l'aider, Travis Kelce, 11 réceptions, 116 yards, un touchdown en finale de conférence. C'est l'ennemi public numéro 1 de la défense pour les 49ers, Raphaël.
En tout cas, c'est la cible le plus à surveiller. Je suis pas sûr que ce soit le match-up le plus important pour la défense et pour l'attaque de Kansas City, mais c'est sûr que Kelce doit être surveillé. On voit quand même qu'il est beaucoup mieux en playoff sur les deux derniers matchs. Enfin, c'est de meilleure qualité que ce qu'il n'a pu faire en saison régulière. Donc il va être surveillé, il va être à surveiller. Je pense que Steve Wilks, le coordinateur défensif des 49ers, je ne serais pas étonné de le voir tenter pas mal de fois des prises à deux sur Travis Kelce, avec un coup un Fred Warner sur lui, plus l'aide d'un safety, ou un Greenlow, plus l'aide d'un safety, pour essayer vraiment au maximum de réduire l'impact de Travis Kelce, en fait, avec l'idée derrière de forcer Patrick Mahomes, notamment sur la troisième tentative, à aller chercher des cibles un peu moins sûres, et essayer de le déstabiliser en lui disant « Ok, je t'ai retiré Kelce sur les troisième tentatives, qui tu vas chercher ?» Et c'est vrai que derrière, Marquez Valdez-Scantling fait des bonnes playoffs, mais on a vu ce qu'on a vu en saison régulière. Rice, c'est sa première campagne de playoffs, tout ça. Donc oui, c'est un match-up important, c'est certain. Il y sera à surveiller, mais...
C'est intéressant ce que tu dis. Du coup, tu dis que ce n'est pas le match-up le plus important. C'est quoi le match-up le plus important pour toi ?
Je ne sais pas si... Enfin, c'est toujours dur de... Je ne sais pas s'il y a un vraiment plus important, mais je me dis que la capacité des 49ers à ralentir Isaiah Pacheco peut être un vrai facteur X et peut-être le match-up le plus important de ce match. On a quand même vu une défense des 49ers en grande difficulté contre la course face aux Packers, face aux Lions. Alors c'était un poil mieux en deuxième mi-temps contre les Lions, mais bon, ça restait pas toujours au top. On a une défense des 49ers qui a du mal à défendre la course, notamment quand le coureur passe par le milieu, par le centre de la ligne. Le centre de la ligne, c'est le point fort de la ligne offensive des Chiefs. Pacheco, c'est vraiment le genre de coureur qui passe plein centre et qui cartonne. Voilà, je me dis que là, il y a un vrai facteur X, match-up très très important à mon sens.
Lucas, Travis Kelce, pas le plus important, t'es d'accord ?
Oui, je suis d'accord. J'étais d'accord avec Raph quand il a dit que c'était pas le plus important. J'imaginais qu'il allait parler du jeu au sol. Alors, c'est toujours un petit peu particulier parce que tu vas nous demander à la fin de ce podcast les clés, les facteurs X de ce match. Et je pense que le jeu au sol, en tout cas, la capacité à défendre le jeu au sol, sera certainement l'une de ses clés parce que c'est vrai que les 49ers, ils ont des difficultés, hein. Il faut pas l'occulter. Et c'est vrai que c'était un petit peu mieux en deuxième période, Raph l'a dit. Mais c'était mieux aussi parce que les Lions se sont un petit peu effrités offensivement et qu'ils ont un petit peu abandonné entre guillemets la course en voyant les 49ers revenir. Mais c'est vrai que c'est une vraie question. Et de l'autre côté, on a l'impression tout de même que Andy Reid et Patrick Mahomes n'hésitent plus vraiment à jouer et à utiliser cette course-là. Je pense que vraiment, surtout Patrick Mahomes, mais Andy Reid doit être dans ce même état d'esprit. C'est désormais la victoire qui compte, c'est les titres qui comptent, c'est le but final qui compte et pas les statistiques et pas vraiment ce qu'on va apporter. Et si gagner passe par le sol, passe par un Isaiah Pacheco qui est bon, Raph l'a dit, eh bien Patrick Mahomes, je pense, n'hésitera pas à passer et à demander à Andy Reid, ou en tout cas acceptera facilement qu'on joue au sol, qu'on avance au sol, qu'on fasse de longs drives comme on a pu le voir. On le rappelle, hein, ils ont fait des drives de 5, 6, 9 minutes en finale de conférence. Et je pense qu'en effet, ils vont, s'ils voient que ça marche, ils vont insister et ils vont pas se dire on a Travis Kelce, on a Patrick Mahomes, il faut absolument qu'on passe dans les airs. Si Pacheco avance, ils joueront avec Pacheco, ça c'est sûr.
Tu l'as bien dit, il y a une volonté d'utiliser la course. 24 courses pour Isaiah Pacheco contre Baltimore, il en avait déjà eu 24 contre Miami. Donc s'ils sont un peu étouffés dans les airs, en effet, ça peut être une possibilité. Les Niners avaient été complètement écrasés par le jeu au sol des Lions pendant une mi-temps, en tout cas pendant la première. Alors, David Montgomery, plus la ligne des Lions, plus Jahmyr Gibbs, c'est encore un cran au-dessus possiblement, mais... Est-ce que, Raphaël, c'est un scénario qui est possible pour toi où il gagne, je sais pas, 100, 120 yards, 130 yards au sol, 150?
Je pense vraiment que c'est un scénario possible. Je le disais, je trouve que le centre de la ligne du côté de Kansas City, Creed Humphrey, Joe Tunney et Trey Smith est vraiment costaud. Et donc, je pense qu'ils ont la capacité d'ouvrir des brèches au centre de la ligne pour Pacheco. En face, on a Hempstead qui est quand même moins présent contre la course que par le passé. On a une défense globalement des 49ers qui, des fois, du fait de Fred Warner et de Greenlow aussi, qui sont des excellents linebackers, mais qui ont peut-être des fois tendance à trop anticiper le big play et peut-être essayer de lire un peu trop vite l'action et se précipiter un peu trop vite. Je pense qu'il y a vraiment moyen de les piéger sur des fausses ouvertures sur la ligne et Pacheco qui prend le trou d'à côté. Enfin... Je crois vraiment que Pacheco, en plus de par son côté rugueux, enfin il est sur une moyenne de 3 yards gagnés après contact, ce qui est quand même plutôt excellent pour un coureur. Je pense vraiment qu'ils ont le moyen d'appuyer au centre et d'aller faire mal. Autant je te dirais que sur les côtés, j'ai du mal à aller voir gagner le jeu de course par les côtés, parce qu'on a vu les tackles de Kansas City un peu en difficulté toute la saison. Mais plein centre, pour moi, il y a une vraie opportunité à aller chercher.
Lucas, un gros match au sol alors.
Oui, un gros match au sol, je pense en tout cas ils vont le tester. Tu parlais des Lions face aux 49ers, on peut parler des Packers aussi, le match précédent qui avait été difficile au sol et ce qui avait bien embêté, pour rester poli, les 49ers. Donc en effet, cette ligne offensive des Chiefs à l'intérieur, comme l'a dit Raph, peut être très intéressante.
Attention, sans Joe Tunney probablement.
Qui devrait possiblement, ouais, qui devait être absent. Alors on a vu que on était très inquiet. En tout cas, pour ma part, je sais pas pour vous, mais on était très inquiet sur le match de finale de conférence. Ça a tenu tout de même. Ils ont été harcelés, mais parce que les Ravens. Je pense que la défense des Ravens sur ce secteur-là est un cran au-dessus de celle de San Francisco. Mais du coup, c'est vrai que voilà, ça a tenu. Maintenant, la question sur cette ligne offensive, parce que c'est un petit peu, on a un petit peu parlé de tous les joueurs de cette attaque. La question sur la ligne offensive va être sur ses tackles, parce que ça va être plutôt sur de la passe désormais. C'est un peu caricatural, mais c'est vrai que l'intérieur est un petit peu plus sur le sol, les extérieurs un peu plus sur la passe, même si on le sait que c'est toujours beaucoup plus compliqué que ça. Là, il peut y avoir peut-être un peu plus de difficultés. Tu as dit, Patrick Mahomes n'a pas été beaucoup saqué. C'est aussi parce que il est capable de sortir de situations compliquées. Mais il a été mis sous pression tout de même, notamment par les Ravens. C'est pas non plus le fort, même si Nick Bosa est là, des 49ers. Mais il pourrait peut-être, là, trouver un point sensible sur lequel appuyer et rendre cette attaque un petit peu plus, la mettre un petit peu plus en difficulté.
En tout cas, de ce que j'entends de ce que vous dites, ça met énormément de pression sur la ligne défensive des 49ers, j'ai l'impression, dans ce match, Raphaël.
Ouais, ça lui met beaucoup de pression dessus, parce que c'est quand même une ligne défensive qui, depuis plusieurs semaines, sous-performe. En dehors de Nick Bosa, on va dire. C'est vrai que Chase Young n'a peut-être pas l'impact espéré. Arik Armstead est quand même moins bon que les années précédentes. Et donc, je trouve que cette équipe de San Francisco va devoir élever son niveau de jeu au niveau de la ligne défensive, parce que si tu laisses trop de temps quand même à Patrick Mahomes pour te découper, ça risque d'être un match très très compliqué pour les 49ers. Et alors, autant face aux Ravens, même quand la ligne défensive n'arrivait pas forcément à mettre la pression, les Ravens sont des systèmes de jeu où les cornerbacks, les safeties sont capables d'aller mettre la pression, ça vient dans un peu tous les sens. On voit quand même ça beaucoup moins du côté des 49ers. On a beaucoup moins un backfield défensif polyvalent là-dessus. Et donc, je me dis, si les 4 de devant n'arrivent pas à faire la différence, moi, ça m'inquiète potentiellement pour les 49ers.
Bon, alors, après, si les 4 de devant n'arrivent pas à faire la différence, on va pouvoir parler un peu de ce duel aérien parce que on parlait de Travis Kelce. Patrick Mahomes n'a pas des receveurs de haut vol en dehors de Travis Kelce. Alors, il y a Rashee Rice, 20 réceptions et un touchdown en 3 matchs de playoff. Il y a 23 réceptions pour Kelce. Donc c'est 23 Kelce, 20 Rice, c'est vraiment les deux leaders. Derrière, on a Noah Gray, 6 réceptions, Isaiah Pacheco, 6 réceptions, Marquez Valdes-Scantling, 5 réceptions. Cette année, les receveurs des Chiefs, c'est 22 ballons relâchés, c'est le pire total de toute la NFL. Est-ce que c'est pas ça quand même le problème numéro 1 des Chiefs? C'est que oui, les 49ers sont prenables dans les airs, mais on sait pas si Kansas City a de quoi vraiment les prendre, Lucas.
Oui, c'est vrai que les Chiefs, ils ont réussi à faire les réceptions qu'il fallait en playoff. C'est vrai que c'est notamment ce qui a changé. On se rappelle de cette dernière troisième tentative là face aux Ravens de MVS. On a parlé. Il a réussi à la capter. Elle n'était pas évidente. Mais c'est vrai que presque plus souvent que l'inverse, ils les ont droppés, ces ballons, ils les ont lâchés. Ces ballons, les receveurs des Chiefs. Et du coup, ça complique la tâche d'un Patrick Mahomes qui va avoir Kelce, certes. Comme l'a dit Raph, qui va être très surveillé. Il va y avoir d'autres personnes qui vont peut-être être ouvertes, mais est-ce que voilà, ils vont se trouver? On sait que ça, on s'est beaucoup cherché. Il y avait Tony qui était là et il devrait pas jouer. En tout cas, il y a toute une histoire autour de Kadarius Tony. Donc c'est vrai que il y a beaucoup plus de questions si on met à part Travis Kelce, mais qui va forcément être surveillé. Donc il va falloir qu'il soit très bon pour se sortir. Bon, il l'a été en finale de conférence, mais autour de lui, derrière, il va falloir trouver des solutions. Alors, il y a Patrick Mahomes, il est capable d'en trouver, mais ils l'ont fait sur 3 matchs. Est-ce qu'ils vont arriver à le faire sur la dernière marche? Ça reste une question.
Raphaël, tu vois, c'est vraiment ça, c'est le facteur X pioché là-dedans. Il y avait eu Kadarius Toney d'ailleurs au Super Bowl de l'an dernier. Là, il faut Marquez Valdes-Scantling. Je sais pas, est-ce que tu les vois déborder dans les airs, ces 49ers, malgré ce manque comme ça de cible?
Oui, je pense qu'ils ont les moyens de déborder dans les airs parce que le système en place, parce que Patrick Mahomes est... Et je ne sais pas à quel point ils auront besoin aussi de beaucoup déborder dans les airs, et notamment si le jeu au sol marche beaucoup. Enfin, je pense que c'est ça aussi l'équilibre, c'est que potentiellement, comme on l'a dit tout à l'heure avec Lucas, si on voit un gros match au sol, ces quelques réceptions, on va dire, de Rice et de Kelce pourraient suffire finalement. Donc voilà, c'est dur à dire. Après, depuis quand même le début des playoffs, ces receveurs qu'on critiquait sont globalement impeccables. Donc en même temps, sur quelle dynamique on se met. Je crois pas vraiment à l'explosion aérienne dans les airs. Je les vois pas passer 350 yards dans les airs, 4 touchdowns. Ça, non, j'y crois pas. Ils l'ont quasiment pas fait cette année, j'ai du mal à croire que ça sera ce soir-là. Mais par contre, entre leur défense, et on y reviendra, entre le potentiel au jeu au sol, ce qu'ils ont fait finalement depuis 2-3 semaines pourrait suffire.
Ok, donc on s'attend à un match posé, équilibré. Il faut pas, si des gens prennent en cours, ont pas vu les Chiefs jouer depuis quelques Super Bowls, faut pas t'attendre à la même chose, ce sera une équipe plus posée.
J'ai du mal à croire que ce soit une explosion aérienne qu'on n'a quand même pas vue cette année.
Ouais, clairement. Après la défense des 49ers, elle n'est pas aussi bonne, par exemple, que celle des Ravens, on l'a dit. Elle est peut-être un petit peu surcotée. On a tendance à imaginer que la défense des 49ers est très bonne. Elle ne l'est peut-être pas autant qu'on l'imagine. Elle reste quand même de qualité. Et je trouve que sur le secteur...
Non. Il faut que tu t'arrêtes là. Moi, je vais mettre sur Twitter Lucas Vola, deux points, ouvrez les guillemets, la défense des 49ers est surcotée. Je me demande même si ça va pas être le titre de cette preview.
Écoute, tu peux y aller. Non, mais je pense sincèrement qu'elle est peut-être. Alors, en tout cas, peut-être que moi je la surcote dans le sens où j'imagine parce que historiquement, sur ces dernières saisons, on se dit qu'elle est très bonne, qu'elle porte cette équipe et tout ça. Et en même temps, quand on regarde, elle a pris l'eau en première mi-temps face aux Lions. On l'a dit, elle a pas été impériale face aux Packers non plus. Ça reste une très bonne défense quand même. C'est juste que par rapport aux Ravens, par exemple, pour moi, il y a pas photo. Je pense que la défense des Ravens, il n'y a pas photo par rapport aux 49ers. Mais ce que je voulais dire tout de même, c'est qu'on a quand même beaucoup critiqué le front 7, ou en tout cas la ligne défensive. L'arrière de cette défense reste quand même, à mon avis, assez de bonne qualité pour tenir cette attaque des Chiefs. Encore une fois, je dis bien cette attaque des Chiefs, parce que Fred Warner et Greenlow, Raph l'a dit, ont tendance peut-être à tenter le gros jeu, mais restent des linebackers de très très grande qualité. Ça, tu pourras le mettre aussi, hein, je le dis, parce que pour me rattraper sur les supporters des 49ers. Non, mais ça reste parmi peut-être le meilleur duo de linebackers de la ligue, et notamment dans le jeu aérien. Ils sont d'une polyvalence impressionnante. Et puis derrière, le backfield défensif, il est solide quand même. Il n'y a pas que des très bons joueurs, mais il y a quand même des joueurs qui sont de qualité aussi, qui sont capables de tenir leur match-up, et donc ça fait que ça reste une défense quand même qui va pouvoir tenir, je pense.
Non, mais ceci étant dit, je suis assez d'accord avec toi, c'est qu'ils sont pas au niveau où ils étaient ces dernières années. Ils vivent un peu sur la réputation, parce que en effet, hein, les stats te donnent raison. Sur la défense aérienne notamment, ils étaient plutôt milieu de tableau au cours de cette année. Ils étaient 14e. Ils prennent 214 yards par match à la passe. Sur les playoffs, là, ils prennent quand même beaucoup. Sur leurs deux matchs de playoffs, ils prennent 386 yards par match en moyenne et 26 points en moyenne. Donc, ils sont au Super Bowl, mais ils ont quand même pas facilement battu les équipes qui se présentaient à eux. Et je suis d'accord avec toi. Après, il y a des individus de qualité. En effet, pour moi, Rashee Rice, il va falloir quand même se cotiner Charvarius Ward, qui est All-Pro. Donc voilà, il y a quand même. Bon, il y a des Fred Warner, il y a des mecs qui peuvent faire la différence sur une action quand même.
Et puis, je répète beaucoup que la défense des Ravens, enfin, en tout cas, la défense des 49ers, ce n'est pas la défense des Ravens. Et donc, ça sera peut-être un peu plus facile pour l'attaque des Chiefs. On peut aussi se poser la question que l'attaque des Chiefs est peut-être pas aussi bonne que l'attaque des Lions, et que ça sera peut-être un petit peu plus facile pour les 49ers. Je mets des gros guillemets. Il y a certes Patrick Mahomes, mais la globalité de l'attaque, on est en train de le dire aussi, c'est une bonne attaque, mais qui explose pas tout depuis le début de la saison. Donc est-ce que les Lions n'ont pas une meilleure attaque et plus difficile à défendre que les Chiefs? Ça peut être ça aussi le pendant de la défense dont je parlais tout à l'heure.
D'autant que la défense des Ravens est forte et les Chiefs sont passés, mais ils ont marqué que 17 points. Donc c'est pas beaucoup non plus. C'est pas beaucoup. Alors la défense en face sera un temps en dessous, mais ça veut pas non plus dire que va y avoir carton. On peut peut-être conclure là-dessus d'ailleurs sur ce côté du ballon. À combien de points tu vois cette équipe, Raphaël?
Autour de 23 points.
Ok, Lucas.
Je suis plutôt d'accord. C'est plus ou moins, j'ai plus exactement les scores en tête, mais je crois que contre les Packers, les 49ers prennent 24 points, quelque chose comme ça. Contre les Lions, ils en prennent un petit peu plus, mais il y a ce dernier touchdown à la fin. Je suis assez d'accord, 25 pour faire un contre-rond, mais je suis assez d'accord.
Bon, ça va tourner là. Un joueur capital en attaque, allez, tiens, Lucas.
Pour les Chiefs. Pacheco, je pense qu'on l'a assez dit. Moi, je pense que vraiment ça peut être un joueur vraiment à surveiller, ou en tout cas pour nous les supporters. Et je pense que c'est un joueur sur lequel les Chiefs vont beaucoup s'appuyer, notamment s'ils sont devant rapidement, notamment s'ils prennent le score, s'ils veulent avoir de longs drives pour casser le rythme d'une attaque qui en a besoin. Je le rappelle, hein, la semaine dernière, 9 minutes de drive face aux Ravens, c'est impressionnant. Imaginez-vous sur un carton de 15 minutes quand on en prend 9, même sur une mi-temps. Déjà, ça laisse plus beaucoup de place au reste, hein, et c'est notamment grâce à Isaiah Pacheco.
Raphaël, on a une clé.
Lucas ayant dit Pacheco, écoute, je vais dire Rashee Rice peut-être.
Après, t'as le droit de prendre le même, hein, si tu penses que c'est Pacheco la clé.
Je pense que c'est Pacheco la clé, mais Rice pourrait être un autre facteur X, dans le sens, Si comme je l'imagine, Kelsey, on va dire, est pris en double tenaille et que ça laisse des espaces à Rice et qu'il bat son Ward en vis-à-vis en un contre un, là, à mon avis, Mahomes peut se régaler toute la soirée et c'est compliqué.
Un défenseur je vais surveiller, on a moins parlé d'eux, c'est un peu ingrat.
Je vais laisser Raph commencer, comme ça je te le pique pas si jamais on a le même. J'en ai un, si jamais tu veux que je commence.
Non, bah défenseur, je pense que c'est Fred Warner et le catalyseur de cette défense, et que s'il arrive à bloquer Pacheco en anticipant les trouperies, ça fera la différence.
Pour le coup, j'avais Nick Bosa, parce que en effet, on l'a peut-être pas vu autant que ce qu'on aimerait, ça reste une bonne saison pour lui, et on l'a vu la semaine dernière, il a été bon sur la fin de match, et on a vu que ça a fait une différence dans l'attaque. S'il arrive à vraiment mettre la pression sur ces deux tackles dont on parlait, Jamon Taylor et de l'autre côté pareil, je pense que ça peut vraiment embêter cette attaque, notamment si à l'inverse les 49ers sont devant et qu'il va falloir passer, si Nick Bosa devient vraiment le joueur qu'il est et à mettre le bordel, si vous me permettez l'expression, je pense qu'il peut être la clé.
Oui, j'allais dire, c'est aussi le moment de justifier son salaire. C'est le non-quarterback le mieux payé de la Ligue, quand même. Donc, oui, je réutilise mes fiches que j'ai utilisées à M6. Raphaël, je te vois sourire. Je l'avais sur ma fiche quand on a commencé le match des 49ers.
T'as le droit de le réutiliser. Les gens l'ont peut-être oublié quand ça a été dit à 2h du mat.
Bah, c'est ça. C'est ça. Donc, il était tard. On passe à l'attaque des 49ers juste après ce petit jingle.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Actu, analyse, résultats, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
On passe donc aux San Francisco 49ers en attaque, mais je vais commencer un petit peu quand même par la défense, messieurs. Steve Spagnuolo, je lance le nom parce que c'est probablement un des meilleurs coachs dont on parle le moins. Il n'a pas eu droit au moindre entretien d'embauche cette année. Plus personne ne pense à lui comme coach principal après son échec à Saint-Louis à l'époque avec les Rams. Et du côté de Kansas City, il a quand même mené une équipe qui termine numéro 2 sur les points encaissés, numéro 2 sur les yards autorisés cette saison. En finale de conférence, il limite les Ravens à 10 points. Il est à Kansas City depuis 2019. Il a déjà été deux fois dans le top 10 sur les points encaissés, mais là, ça a l'air d'être vraiment son chef-d'œuvre cette année. Est-ce qu'il peut leur gagner le match ? Raphaël, je sais que tu es fan.
oui, plutôt fan de ce que Spagnuolo peut proposer. Je trouve que c'est un coach qui a quand même une diversité, une certaine polyvalence dans ce qu'il appelle, sa capacité à couvrir ses envies, en fait, et couvrir ses calls et cacher un peu ses intentions. Je pense qu'il peut le faire, il l'a montré par le passé. C'est quand même un coach qui a quasiment réduit au silence les Patriots invaincus de l'époque, de Tom Brady. On l'a vu quand même globalement, les Chiefs au Super Bowl, pareil, la défense a pu être pas trop mal. Alors pas contre les Eagles, effectivement, ça a été compliqué, mais c'est pas toujours le problème. Et puis surtout, il y a cette saison où quand même, Kansas City, tu l'as dit, t'as répété les stats, si les Chiefs sont en playoff cette année, c'est plus par la défense que par l'attaque, clairement. Donc, et puis là, ils ont quand même rencontré l'attaque des Bills, l'attaque des Ravens et l'attaque des Dolphins pour franchement trois résultats quand même très très costauds. Alors oui, il y a eu un peu de neige, il y a eu un climat très compliqué à Kansas City, mais enfin derrière, globalement, ils ont fait quand même ce qu'ils avaient à faire. Donc je pense que ça peut être la clé, et de toute manière, j'ai même envie de dire que c'est le duel qu'on veut le plus voir, parce que actuellement, c'est les deux meilleures escouades des deux équipes, l'attaque de San Francisco et la défense de Kansas City. Donc, on a envie de voir l'affrontement entre Shanahan et Spagnuolo.
Est-ce que Lucas veut aussi voir cet affrontement-là en priorité ?
Oui, oui, forcément, forcément. Et Raph a dit beaucoup de choses sur Spagnolo et je suis tout à fait d'accord avec lui. Sa manière de préparer son game plan est toujours incroyable. Et cette défense-là, même quand elle a été un petit peu moins talentueuse, elle a toujours été bien préparée et elle est rarement passée au travers des grands matchs. Même quand, je le répète, il y avait des joueurs un petit peu moins de talent. Donc en plus, si on y rajoute du talent comme ils l'ont maintenant, ça fait partie des meilleures défenses. Et c'est vrai que c'est le duel qu'on veut voir et symboliser aussi, Raph a beaucoup parlé de Steve Spagnuolo, symbolisé par ce duel avec Kyle Shanahan. Forcément, je pense que c'est la personne, joueur coach confondu, qui a le plus de pression dimanche prochain sur ce match, parce que pour moi c'est un petit peu comme Andy Reid avant qu'il gagne. C'est-à-dire que c'est un coach qui a énormément d'influence sur la ligue, notamment offensive, qui est incroyable, on peut le dire, mais qui n'a toujours pas gagné et qui malheureusement, on le sait, on juge aussi sur ça. Et une victoire dans ce match-là validerait beaucoup de choses, alors qu'il n'a pas forcément besoin d'être validé parce que son influence, on la connaît sur la ligue. Il y a énormément de coachs qui ont joué avec lui et qui montrent que ce fameux arbre et partout dans la ligue. Mais c'est vrai que tant qu'il n'y a pas une victoire au Super Bowl, et en plus il y a cette défaite face aux Chiefs, il y a cette défaite face aux Patriots où il était coordinateur offensif, qui lui colle à la peau, et donc une victoire validerait tout ça. Pour l'instant il l'a toujours pas, et c'est vrai qu'il a énormément de pression, et donc ce duel avec Spagnuolo sera encore plus intéressant.
Il y a un petit côté Andy Reid d'ailleurs chez Shanahan, j'y pense là, qui a mis longtemps à gagner, parce que Reid c'était 5 finales de conférence consécutives avec les Eagles, un Super Bowl perdu, enfin il avait beaucoup de temps à y arriver, mais je suis assez d'accord avec toi. Moi je l'avais dans mes clés psychologie de comptoir du match, de le complexe d'infériorité de Kyle Shanahan au bout d'un moment. Est-ce que sur cette opposition, si on revient au terrain, Chris Jones, George Karlaftis contre la ligne offensive des 49ers, on a vu que les Niners ont beaucoup souffert sur les lignes contre les Lions en première mi-temps, ils avaient du mal même en attaque à tenir. Est-ce que la clé ce sera d'aller vite en attaque pour les 49ers, parce qu'ils jouent vite, ils ont beaucoup de cibles? Et ce sera donc une clé pour eux, peut-être, que Brock Purdy distribue vite avant que Chris Jones et George Karlaftis arrivent là.
En tout cas, c'est sûr que cette ligne offensive, elle est en difficulté depuis quelques matchs, depuis les deux matchs. Alors ça tient parce que Brock Purdy arrive à distribuer vite. Sur le dernier match, il a pu aussi se libérer et courir, ce qu'on n'avait pas forcément vu de lui. Et il a montré qu'il était capable de le faire. Et c'est vrai que cette ligne offensive, pour le coup, elle laisse, notamment surtout dans le jeu aérien, elle laisse beaucoup de pression arriver sur le quarterback. Même si le plan de jeu de Shanahan est toujours bien pensé et que ça laisse des options, mais il faut quand même des jeux où il faut un peu plus de temps à Brock Purdy pour voir un Deebo Samuel, un Brandon Ayuk, un George Kittle qui peut aller très loin aussi. Forcément, ça, par définition, il faut que le jeu se développe un peu plus longtemps, notamment sur des play action. Et c'est vrai que la ligne offensive ne laisse pas toujours le temps à Brock Purdy, donc ça peut être une clé, je suis d'accord.
Raphaël.
Oui, c'est une clé, cette ligne offensive, et effectivement, j'imagine bien Shanahan, en tout cas dans un premier temps, je demandais beaucoup de passes rapides et courtes pour essayer de contrer notamment le blitz de Spagnuolo. On sait que Spagnuolo aime bien blitzer quand même, envoyer pas mal de cornerback, de safety, mettre la pression. Donc c'est sûr que si Brock Purdy arrive à trouver ses cibles et à se débarrasser rapidement de la balle, et en plus donner la balle à des cibles qui sont parmi les meilleurs de la ligue pour le yard après réception, enfin les Ayuk, les Samuel, Kittle même, sont des joueurs qui, une fois qu'ils ont la balle, sont vraiment capables d'aller gagner des yards supplémentaires en cassant les plaquages, etc. Donc si Shanahan arrive à mettre ça en place, que Brock Purdy arrive à bien l'exécuter, ça pourrait mettre en difficulté effectivement la défense des Chiefs. Et d'ailleurs, sur le Super Bowl de 2020, alors j'ai toujours un doute sur l'année parce que je confonds tout le temps entre l'année de saison régulière et l'année...
C'est en février 2020,
ouais,
je crois,
d'exécution,
c'est en février 2020.
C'est ça, février 2020. La première mi-temps des 49ers, c'est un peu ça. Garoppolo lance très rapidement beaucoup de passes courtes et ça déstabilise la défense des Chiefs un temps. Après, il y a des bons ajustements en seconde mi-temps et tout ça, mais ça me paraît être cette ligne offensive, sa capacité à tenir... Et du coup, si elle ne tient pas de Brock Purdy par miroir, on va dire, par effet miroir, de se débarrasser très vite de la balle, effectivement, ça peut être important, même si j'ai envie de dire que la différence... Pardon, c'est un peu long, mais j'ai envie de dire qu'une des différences quand même avec 2020, c'est que les cornerbacks des Chiefs me paraissent bien meilleurs que ce qu'il pouvait y avoir en 2020.
Tu parlais notamment du blitz des cornerbacks. Je vais juste finir sur la ligne avec ça, mais est-ce que ça va leur permettre, notamment les systèmes de Steve Spagnuolo, de surmonter les blessures de Derrick Nnadi et Charles Omeniu, qui vont quand même être absents? Ça semble manquer de monde derrière Jones et Karlaftis. Est-ce que les schémas leur permettent de surmonter ça?
Il va falloir, en tout cas.
Il va falloir, oui. Ce sera
Ce sera une des clés, en tout cas.
Oui, parce que on a vu que Nnadi n'était pas là la semaine dernière, ça n'avait pas changé grand-chose. En tout cas, ils avaient été bons. Là, on rajoute une blessure, on rajoute un absent, tu l'as dit. Et ça va être challengeant pour cette défense des Chiefs. Après, voilà, il y a des systèmes, tu l'as dit, qui sont mis en place pour faire que l'équipe performe au-delà des individualités. Après, c'est toujours mieux si on a de très bonnes individualités. Et pour le coup, cette défense, il y en a tout de même.
J'insistais un peu sur les tranchées parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est la base de tout pour les 49ers. Où t'as pas un Patrick Mahomes, alors on va revenir sur Brock Purdy qui est évidemment un très bon quarterback aussi maintenant, mais on a l'impression que si la ligne tient, ça peut devenir un rouleau compresseur en fait. C'est pour ça que je commence par ça. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus?
Oui, oui, si la ligne tient, effectivement, que ce soit, mais je trouve dans des deux côtés, enfin, on va dire dans les deux styles de jeu, si elle tient au niveau de la passe, ça ne peut que aider cette attaque à mettre en place le système. Et si elle tient même au niveau de la course et qu'elle ouvre les brèches, ça sera un beau chemin vers la victoire potentielle, parce que si tu bloques ce que Spagnuolo a proposé pour défendre la course et que tu ouvres les brèches, derrière, McCaffrey a quand même la capacité d'aller gagner les yards, de tenir le ballon surtout et de laisser à Patrick Mahomes et compagnie sur le banc. Donc oui, la ligne offensive sera importante, c'est certain, ouais.
Alors avec du temps, Brock Purdy a beaucoup plus d'armes à disposition, t'as un peu cité les noms Raphaël. Purdy c'est 61,4% de passes complétées en deux matchs de playoff, 259 yards par match, 2 touchdowns seulement et une interception, 3 sacks. Il a pas toujours été au top pendant les playoffs, il y a eu la pluie, il y a eu la défense des Lions, mais il s'en sort toujours. Kyle Shanahan a dit qu'il était... Alors évidemment, c'est plus toujours... Je pense qu'il aurait préféré rouler sur tout le monde, mais il a dit oui, non mais c'était pas mal parce qu'on a eu tous les scénarios, on a eu du mal, on a peiné et voilà. Est-ce que, Lucas, c'est vrai que c'est pas plus mal que tout ça soit arrivé avant à Brock Purdy? Là, il arrive à un Super Bowl. Alors, évidemment, il y aura la nouveauté. Il l'a pas connu. Il n'était pas là en février 2020. Mais il arrive quand même en ayant gagné un match où il était mené de 17 points contre les Lions. C'est quand même plutôt rassurant.
Bah surtout qu'il y a en effet deux facteurs dont tu as parlé. C'est que déjà, il y a le fait que, historiquement, Kyle Shanahan, on le dit, il a du mal à gagner quand il est mené. Ça fait deux matchs qu'il le réussit, notamment grâce à cette attaque. Et du coup, c'est un petit peu ce chat noir, un petit peu cette storyline qui les suit, qui a un peu été éliminé, et ils peuvent se libérer de ça. Et puis en plus, il y a Brock Purdy. Il faut pas oublier que Brock Purdy, c'est un quarterback qui a très peu d'expérience. Il a commencé l'année dernière, il a été un petit peu blessé aussi, donc on s'en rappelle, fait la finale de conférence, ou en tout cas, il l'a pas faite en entière. Là, cette année, il a rejoué, mais ça reste très peu de matchs. Et donc, du coup, toute l'expérience qu'il peut prendre, elle est justement bonne à prendre. Et c'est vrai que quand en saison régulière, il a joué, que ce soit l'an dernier ou cette année, souvent, en tout cas régulièrement, les 49ers étaient devant parce que ça joue contre des équipes un peu plus faibles. Et du coup, il domine et il doit gérer. Là, c'est vrai que c'est bien dans un grand match de le voir être obligé d'aller chercher un match parce que ça pourrait arriver dimanche prochain et qu'il aurait un petit peu d'expérience. Donc ça va être une vraie question en tout cas. Brock Purdy aussi, on se rappelle de Jimmy Garoppolo il y a 4 ans, on revient souvent sur ce match là mais il était un petit peu dans la même situation. Alors je pense que Brock Purdy est un peu meilleur que Garoppolo quand il l'était, mais c'est faut valider cette bonne performance par un titre aussi, par une victoire, ce que Garoppolo n'a pas réussi à faire et qu'on l'a traité après de quarterback de système de Shanahan. Brock Purdy pourrait faire ce que Jimmy G n'a jamais réussi à faire, et ça pourrait le faire basculer dans un cran au-dessus que l'était Jimmy Garoppolo.
Ce sera son 31e match NFL à Brock Purdy pour être...
Pour Patrick Mahomes, par exemple, je ne les ai pas en tête, mais si on fait x6, oui, la différence, elle est marquante.
La petite différence avec Garoppolo, qui a pour le coup été à l'avantage de Garoppolo, c'est qu'il avait vécu le processus du Super Bowl avec les Patriots en tant que remplaçant, donc il connaissait la semaine, les obligations presse, etc., etc. Là, Purdy va découvrir tout ça pour le coup. Il a montré en finale de conférence qu'il peut faire la différence avec ses jambes, 5 courses et 48 yards contre Détroit, des courses qui ont quand même été assassines à chaque fois. Raphaël, on s'en rappelle celui-là pour avoir été devant. Le but pour lui, c'est quoi? C'est justement de reproduire cette deuxième mi-temps des Lions, c'est-à-dire propre, décisif.
Oui, enfin, forcément, c'est ça, être décisif, être capable aussi d'aller chercher, comme on l'a vu face aux Lions, quelques jeux avec ses jambes s'il le faut, d'être plus précis quand même dans ses lancers. C'est vrai qu'il y a eu quelques imprécisions sur les deux derniers matchs, Le premier, on va dire que la pluie n'a pas aidé. Sur le deuxième, le temps était quand même assez clément et donc peu inquiété. Surtout que je pense que la défense des Chiefs a quelques armes pour aussi créer des interceptions au besoin. Alors, c'est loin d'être une des meilleures équipes dans ce domaine, mais malgré tout, ils ont des joueurs pour le faire. Oui, ce mental, cette gestion d'un premier Super Bowl, cette capacité à aller exécuter parfaitement ce qui est demandé et sortir plus. La profondeur, le jeu en profondeur aussi sera important. Il est forcément facteur X à part entière.
La défense des Chiefs est solide et plutôt équilibrée. Est-ce qu'ils ont suffisamment de monde maintenant pour défendre les 49ers? C'est une autre question. Je reviens sur la multitude des cibles. 11 réceptions pour Christian McCaffrey, 10 pour Deebo Samuel, 6 pour George Kittle, 6 pour Brandon Ayuk, 6 pour Jawan Jennings. Comment tu défends ça, Lucas? Est-ce que tu peux défendre ça?
C'est dur, on le voit, hein, c'est compliqué. Et c'est vrai que la priorité pour Kashanan et puis pour Brock Purdy, ça va être de donner le ballon, de mettre le ballon dans les mains de ces playmakers-là, de ces joueurs qui font la différence. Parce que Brock Purdy est très bon justement là-dedans, et je suis pas en train de le traiter de game manager, mais c'est vrai qu'il a vraiment la priorité de donner. Et comme il y en a beaucoup, c'est vrai que pour les défenses en face, c'est compliqué de gérer un Christian McCaffrey qui peut être assassin au sol et puis se libérer à la passe, de gérer un George Kittle qui est pas simplement un tight end puissant, mais qui est capable de jouer dans la profondeur du terrain. Il y a Deebo Samuel qui est capable de tout faire, et c'est vrai que c'est compliqué. On en a parlé, Steve Spagnuolo, je pense qu'il est capable d'imaginer quelque chose. Maintenant, ça peut venir de partout, et il faut que tout le monde soit sur la même page et que tout le monde soit très bon pour défendre ça, et notamment un Deebo Samuel qui, je pense, est une autre de ses clés, parce qu'on l'a vu il y a deux semaines, quand il a été un petit peu blessé, ça a été un petit peu plus compliqué pour l'attaque des 49ers, mais quand il est là, il met tellement d'incertitudes, ce joueur. J'ai du mal à imaginer un autre joueur offensif hors quarterback qui mette autant d'incertitudes dans une défense, tant il est capable de faire un petit peu tout et d'être mis dans des situations comme le fait Kashanan, si différentes.
Ils peuvent tous réussir une grosse action à tout moment. Alors en face, il y a Trent McDuffie qui est All-Pro quand même, mais il faut beaucoup de monde. Il y a aussi évidemment Christian McCaffrey, 5,1 yards par course en playoff, 11 réceptions en 2 matchs, je l'ai dit. Raphaël, est-ce que la priorité numéro 1 c'est de le stopper, ou est-ce qu'on est dans ces cas où tu dis bon bah celui-là il va faire ses stats, donc tu peux pas mettre tout dessus, et en plus il y en a beaucoup d'autres? Comment tu fais pour encore une fois, c'est insoluble, hein, mais
C'est
tu fais quoi de Christian McCaffrey dans ton plan, quoi?
Oui, c'est insoluble, dans le sens, je pense qu'en fait, t'arrêtes jamais vraiment l'attaque des 49ers, tu ralentis. Le but, c'est de ne pas prendre de touchdown sur chaque drive, en fait. C'est plus ça que tu sais que tu vas prendre des points et des touchdowns. Ça me paraît assez illusoire de te dire que tu ne vas rien encaisser face à eux et que tu vas réussir à tout bloquer. Maintenant, je crois quand même que l'important, c'est de bloquer Christian McCaffrey. C'est d'empêcher McCaffrey d'aller gagner sur les premières et deuxièmes tentatives, c'est 5-6 yards quasiment habituels pour lui. Et en fait, du coup, de mettre Brock Purdy sur les situations de deuxième et troisième, de le forcer à avoir beaucoup de yards à aller chercher. Et à ce moment-là, quand t'es Spagnuolo, sur ses troisièmes et longues, sur ses deuxièmes et longues, t'envoies des blitz un peu originaux comme lui sait le faire, et où finalement Chris Jones décroche et c'est un Drew tranquille au poste de linebacker qui va chercher le sac. Enfin voilà, je pense. Donc moi je continue. Enfin je pense que bloquer McCaffrey c'est l'option numéro 1 pour c'est le truc à faire numéro 1, parce que le système offensif aussi de San Francisco est d'abord tourné sur McCaffrey, et si t'arrives à vraiment réduire les gains de McCaffrey, à mon avis, tu améliores tes chances. Voilà, t'améliores tes chances. Je pense que ça serait une erreur de jouer avec des boîtes trop vides et de laisser McCaffrey gagner 6-7 yards sur ses portées. Et voilà.
Lucas, pour résumer un peu ce qu'on dit depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que c'est un de ces matchs où il y a une très très bonne attaque en face. Et c'est pour ça que j'ai commencé par Steve Spagnuolo, où on dit il faut que le mec en face trouve un plan, comme on a eu des Super Bowls où Bill Belichick stoppait une attaque des Rams, ou Steve Spagnuolo stoppait l'attaque des Patriots à l'époque, ou des choses comme ça. Est-ce que c'est vraiment un match de coordinateur défensif pour le coup?
Ah, de ce côté-là, oui. En tout cas, de ce côté-là, oui, véritablement. Et c'est vrai que c'est ce duel-là qui va être hyper excitant à voir et à imaginer, parce que c'est vrai qu'il faut trouver un système. qui n'est pas introuvable, hein, parce que alors on peut estimer que ce sont les 49ers qui se sont tués eux-mêmes, mais la première mi-temps face aux Lions de la semaine dernière, c'était très très correct pour les Lions, qui ne sont pas réputés pour être l'une des meilleures défenses de la ligue. Alors c'est bon au sol, mais c'est un peu moins dans les airs, et on a vu ce que ça a donné tout de même. Donc c'est pas introuvable. Maintenant, c'est vrai que ça va être compliqué, parce que les 49ers, voilà, ils commencent à prendre leur rythme, ils ont fait pour le coup une super deuxième mi-temps. S'ils font un match entier comme ça, ça peut être compliqué, mais c'est vrai que ça va être hyper intéressant de savoir ne serait-ce que qui va marquer en premier déjà aussi. Ça, c'est quelque chose qui peut être important, parce que ça peut donner un avantage, même si on se rappelle qu'il y a 4 ans, ils avaient 10 points d'avance, les 49ers, et ils ont tout de même perdu. Mais c'est toutes ces genres de petites choses-là qui vont être très intéressantes à observer.
Un joueur clé de chaque côté du terrain, pour chaque équipe là, sur cette opposition, Raphaël, un attaquant, un défenseur.
Côté
McCaffrey, t'as dit.
Ouais, on attaque côté 49ers, McCaffrey, effectivement. Je pense que c'est un McCaffrey à plus de 100 yards. Le match est bien entamé et bien parti dans ton escarcelle. Côté défense, Lajarius Sneed, l'autre très bon cornerback des Chiefs qui à mon avis sera beaucoup face à Brandon Ayuk, et sa capacité à verrouiller Brandon Ayuk pourrait déjà presque, on va dire pour Spagnolo, faire un contre un, verrouiller et enlever une arme à Purdy.
Ouais, moi ce serait en attaque, ce serait plutôt un Deebo Samuel. Je pense que je l'ai dit, j'ai déjà expliqué un petit peu, mais Deebo Samuel pour moi c'est vraiment une des clés, parce que Christian McCaffrey, je pense, va faire ses statistiques, il va être alimenté beaucoup de ballons, et je pense que ça sera difficile de l'arrêter totalement, mais par contre Deebo Samuel, il fait tellement de choses à côté que il peut faire passer cette attaque un cap au-dessus. Et de l'autre côté, je vais dire, j'avais Sneed aussi, mais peut-être Reed aussi, qui est un safety dont on parle pas beaucoup, le joueur des Chiefs, et c'est vrai qu'on parle beaucoup des cornerbacks, on parle pas beaucoup de ce safety, on l'a dit. Alors il est bien mis en valeur dans un bon système qui justement lui permet de performer, en pourquoi pas aller en saquer, pourquoi pas défendre la course, mais il fait un peu tout, et je pense qu'il est important. Je pense que si Spagnolo, dans son système, il est content d'avoir un joueur comme Reed, parce que ça lui permet de faire beaucoup de choses autour de lui.
Dernier point sur cette opposition, les 49ers ont été maintenus à moins de 20 points sur toutes leurs défaites. Question simple, est-ce que les Chiefs peuvent les maintenir à moins de 20 points?
Oui.
C'est 20 points, ça fait pas beaucoup tout de même.
Ça fait pas beaucoup. Pardon, hein, je coupe,
ouais, vas-y.
Juste pour finir, comme tout à l'heure, je disais que les Chiefs, je les voyais autour de 23 points. Il va falloir des 49ers pas loin de 20 points pour l'emporter.
Ouais, moi j'ai du mal à imaginer les 49ers sous les 20 points tout de même.
Bon, ça va être compliqué. Les clés du match, justement, eh bien, c'est juste après ce jingle qui met la patate, parce que c'est l'heure des pronos. Non, c'est pas celui-là. It's time, baby. Make it special tonight. Make tonight special. It's our night and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. We're gonna work on three. One, two, three, work. On est donc sur les clés du match, messieurs, c'est parti. Chacun une clé du match, et puis après je vous donnerai quelques enjeux en vrac, vous me direz s'il y a enjeu ou pas. Lucas, ta clé du match.
C'est difficile parce qu'on en a beaucoup parlé déjà. J'ai envie de dire la ligne offensive des 49ers et plus globalement les lignes, mais je vais pas tout défricher, mais la ligne offensive pour moi des 49ers parce que c'est pas la plus sereine depuis les playoffs, toute proportion gardée, et je pense que si elle tient pas, ça va rendre cette attaque compliquée. Donc pour moi, il va falloir vraiment qu'elle tienne le choc.
Et eh ben, avant que Raphaël y passe, mes clés c'était exactement ça. Donc c'était les lignes. Et si, alors, on peut donner la clé et un petit avantage. Moi, j'irais quand même sur les 49ers au niveau des tranchées. Voilà. C'est bon. Après, on est d'accord. Hein, les lignes, c'est un peu cliché. C'est comme les turnovers. Mais je trouve que les lignes, c'est encore plus important dans ce match, et ça pourra même t'autoriser peut-être une petite bévue ou une petite bêtise. Donc voilà. Je pense que les deux lignes des 49ers peuvent peut-être pas dominer, mais gagner suffisamment. Voilà. Ça me semble incertain à chaque fois. Raphaël, ta clé du match.
Les jambes de Patrick Mahomes. Je pense que il l'a notamment montré face aux Ravens en deuxième mi-temps. Alors si à la passe ça a été compliqué, il y a pas mal de drives et de séries qu'ils ont réussi à prolonger grâce à ses jambes. Et les 49ers ont un peu de mal là-dessus sur les quarterbacks mobiles. Et je pense que Mahomes, s'il arrive à échapper des fois à la pression des 49ers, comme tu vois en plus la ligne défensive des 49ers gagner un peu son duel, je pense que Mahomes et son attaque peuvent vivre et aller l'emporter grâce aux jambes de Mahomes en plus.
Tu l'avais gardé au chaud celle-là, c'est bon. Parce que franchement, ouais, c'est dur de garder une clé du match sur une heure de podcast. Tu l'avais gardé en carte joker, bravo.
Solide, solide. Quelques enjeux en vrac, messieurs. Être fidèle à ses principes. Parce qu'on a vu les Ravens en finale de conférence complètement oublier de courir, notamment. Et là-dessus encore, je vois les 49ers courir, manger le chrono. C'est des trucs qu'ils ont besoin de faire, c'est des trucs qu'ils font bien. S'ils sont fidèles à leurs principes, on est d'accord. Mais vous ne voyez pas une équipe qui déroge complètement à ses principes ?
Non, je crois pas.
Je pense pas.
Non. Très bien. Deuxième enjeu, Kyle Shanahan, le premier titre ou le complexe d'infériorité ?
Ah, moi, je l'ai déjà beaucoup évoqué, mais je pense que si ce n'est un enjeu, c'est vraiment pour moi la personne qui a vraiment le plus de pression dans ce match-là, qui doit. Parce qu'Andy Reid, même Patrick Mahomes, qu'ils en gagnent ce serait toujours mieux qu'ils en gagnent un troisième. On a commencé le podcast en disant ça, mais bon, ils en ont déjà deux. C'est vrai que Kyle Shanahan, avec une nouvelle défaite au Super Bowl, ça ferait deux en tant que coach principal, une en tant que coordinateur, et on se souvient beaucoup qu'il a été coordinateur de ce match-là, entre les Patriots et les Falcons. Donc c'est vrai que pour moi, il a une énorme pression, et ça peut jouer dans ce match-là. Tu parlais des principes, ça peut jouer dans son play call, ça peut jouer dans son approche du match. En tout cas, ça va être vraiment important pour lui, je pense.
C'est fou quand même d'ailleurs, c'est probablement le coordinateur le plus mémorable d'un Super Bowl. Hein.
Clairement.
Oui, bah parce que c'est vrai que là, cette année-là, les Falcons vont au Super Bowl clairement grâce à leur attaque. Tout le monde est impressionné par le niveau de ce que fait Shanahan, et derrière, il le confirme avec une équipe de San Francisco qui en plus attaque très bien, puis il essaime un peu partout. Donc je rejoins Lucas sur le côté important pour Shanahan de ce match. Et parce que aussi, j'ai l'impression par rapport à tout ce qu'on a dit que quand même le duel Shanahan-Spagnolo a l'air d'être quand même ce qu'on attend le plus, ce qui va être le plus scruté, donc forcément.
C'est sûr. Équipe spéciale, petit point, alors, je ne sais pas si ça appelle forcément réaction, mais au moins sachez que Harrison Butker a joué 18 matchs de playoff, dont 3 Super Bowl, et qu'il a 5 sur 6 au pied au Super Bowl. Jake Moody en face pour les 49ers a raté 2 field goals en playoff et il est rookie. Ce sera donc son premier Super Bowl. Mine de rien, c'est un vrai avantage pour les Chiefs, a priori.
Oui. Ouais, pour moi, c'est un vrai avantage, pour le coup.
En tout cas, s'il faut faire confiance à l'un des deux, c'est vrai que je pense que je ferais plus confiance à Butner qu'à Moody.
Ouais, parce que pour le coup, Moody, il en a raté un petit même encore contre les
Lions,
d'ailleurs.
Bon, après, en dôme, normalement, là, quand même, les gars... Enfin, bon.
Après, les jambes, c'est pas forcément le froid qui les fait trembler. Hein.
Non, je sais bien. Mais disons que là, pour le coup, y a, en plus, t'as pas de risque d'aller à climatique et de petits coups de vent, a priori, sauf si la clim est vraiment très forte, mais...
Ah oui, clairement, il n'y aura pas de...
Oh, Las Vegas, ils sont capables de mettre la clim très fort.
Il y aura probablement un peu de clim, hein, ça c'est tout à fait possible. On termine avec le pronostic, messieurs, le pronostic, l'enjeu. Je rappelle quand même les enjeux pour tout le monde. Les Chiefs, premier doublé depuis les Patriots en 2004 et 2005. Alors, j'avais le même dilemme que toi, hein, Raphaël, savoir est-ce que je donne la saison ou est-ce que je donne le moment où s'est joué le match. Je vous donne là les moments où sont joués les matchs. C'est les Super Bowl de février 2004 et de février 2005. Ils avaient gagné 3 titres en 4 ans, puisqu'ils avaient aussi gagné en février 2002. Et donc, ils avaient gagné 3 titres sur les 4 premières saisons titulaires de Tom Brady. C'est quand même le 4e Super Bowl joué en 5 ans, par contre. Kansas City, c'est délirant hein, quand on y pense. Et j'avais même pas fait gaffe, Lucas, ce que tu disais, mais ils visent quand même un 3e titre en 6 ans, Mahomes.
6 ans en tant que la moitié titulaire, de ses années, je crois qu'il y a sa première année où il l'est pas, mais en tant que titulaire, ça fait 6 ans, il me semble. Ouais.
C'est quand même assez fou. Donc pour les 49ers, eux, c'est. Alors les Chiefs, déjà, ce serait un 4e titre au total, mine de rien aussi. Ils commenceraient à arriver haut, puisque ça les mettrait à égalité avec les Packers et les Giants. Et devant eux, il n'y aurait plus que les Niners et les Cowboys à 5 et les Patriots et les Steelers à 6. L'enjeu pour les 49ers, vous l'avez compris avec ce que je viens de dire, c'est le 6e titre pour égaler les Patriots et les Steelers et donc devenir la première équipe, numéro 1 au classement avec les Patriots et les Steelers. Faut noter que la dernière fois qu'ils ont gagné le Super Bowl, en plus les 49ers, les Patriots étaient à 0. Hein.
Oui, parce que depuis le dernier, tu donnais les franchises. Il y a en effet les Steelers et les Patriots à 6 et puis juste au-dessus il y a Tom Brady à 7.
C'est vrai, c'est vrai. Il y a ça aussi. Mais en tout cas, ouais, ils sont. Je veux pas. C'est pareil. Du coup, là, je l'ai pas noté. Donc, c'est 94 ou 95. Du coup, le dernier. Et entre temps, les Patriots ont donc gagné 6 pour San Francisco. L'enjeu pour les pronos TDA, messieurs, parce qu'il y a un enjeu pour les pronos TDA. Victor 197 points, Lucas 196 points, Raphaël 192, Alain 187, Grégory 181, Raoul 170. Donc, tout est verrouillé, sauf la gagne.
Je suis surpris, on n'est pas à égalité avec Victor.
Bah écoute, le compte. Ah, ou alors il y a eu une erreur dans le fichier point, t'as donné qu'un point au lieu de deux.
Ouais, je crois que sur la dernière semaine, il n'y a qu'un point au lieu de deux par match.
Ah,
je crois qu'il y a eu un petit problème.
On est à égalité. Bon, ça ne change pas grand chose à l'histoire. Parce que...
Alors attends, il a été corrigé depuis que je l'ai consulté. En effet, Victor et Lucas, 198.
Quand même.
Raphaël, 193. 188 pour moi. 183 pour Greg et 172 pour Raoul. Donc, ce que je disais, c'est que les 4 derniers, c'est verrouillé. Je peux pas rattraper Raphaël, Greg peut pas me rattraper, Raoul peut pas rattraper Greg. Donc, c'est figé. Raphaël 3, moi je suis 4ème, Grégory 5, Raoul 6ème et dernier. Il reste donc les deux leaders à égalité. Voilà, tout est verrouillé sauf la gagne. On n'a pas le prono de Victor.
Alors, je peux vous le dire, si je peux me permettre, je peux vous le dire parce que on s'est arrangé, on a fait un arrangement avec Victor. Moi, je lui ai dit très simplement, et ça m'arrange parce que vous l'aurez compris, je vais être incapable de pronostiquer ce match. Je lui ai dit parce que on nous a sorti, il faut dire, je le dis tout à nos auditeurs, on nous a sorti un tiebreaker un petit peu.
Ah, il y a des règles.
Oui, il y a des règles qui ont été inventées au fil de l'eau parce que moi, j'étais pas au courant. J'étais pas au courant, mais apparemment, les règles, puisque c'est ainsi, apparemment, c'est la saison régulière qui prime et Victor a fini devant moi en saison régulière, donc si on était à égalité, il serait devant. Donc je lui ai dit avant les finales de conférence, je lui ai dit écoute, si j'ai la chance de revenir à égalité avec toi, je te laisse choisir ton pronostic et je prends l'inverse. Ça m'arrange parce que je suis incapable de pronostiquer sur ce match-là.
Grand seigneur.
Il a choisi Kansas City Chiefs, voilà, donc ce sera les 49ers pour moi. Et puis j'aime bien cette idée que en plus il y ait de l'enjeu sur ce match-là. Il a choisi, j'ai pris l'inverse. Honnêtement, pour moi, c'est du 50-50, donc j'estimais même pas lui faire une faveur. Limite, même je lui mettais la pression.
Très bien, très bien. Donc alors attends, répète le mot.
Alors ce sera ce sera les Kansas City 49ers. Non, ce sera les Chiefs pour Victor et les 49ers pour moi-même.
Et les 49ers pour toi. Très bien. Un petit score ?
On a dit quoi tout à l'heure ? On a dit au moins 25 pour les Chiefs. Je vais rester cohérent. J'ai dit 25 pour les Chiefs. Et puis plus de 20 pour les 49ers qui vont gagner 29-25.
Beau match.
Ouais.
Hein. 29-25, ça va être pas mal. Le Raphaël.
Moi, je pars sur les Chiefs.
Les Chiefs.
Je l'ai peut-être laissé un peu entendre sur la preview, mais...
Un petit peu.
Je pense qu'ils ont, ils ont quelques avantages. Puis là, ils sont arrivés quasiment perdants, pas favoris sur les trois quarts des matchs de playoff. Et à chaque fois, ils en sont sortis. Ils font les actions clutch quand il faut. Bref. Kansas City, sur le score, du coup, je verrais bien un petit 24-21.
24-21, 3 points d'écart. Donc, suspense fin de match, quoi.
Oui, suspense fin de match.
Match à suspense. Je vais aller sur les 49ers. Nick Bossa a dit que c'était le Super Bowl parfait puisqu'il voulait se venger. Lui, il était là en 2020. Il manquera pas de motivation pour se venger. Si je suis honnête, je serais plus Chiefs pour le cœur parce que j'ai envie de voir un doublé. J'aime bien voir l'histoire et tout. Je trouve que ça aurait quand même de la... Ça fait plus de 20... Ça fait 20 piges. J'ai dit quoi ? 2004-2005. Donc ça fait 19 ans qu'on n'a pas eu un doublé. C'est quand même assez, assez loin. Après, donc, je vais quand même dire 49ers, parce que je me dis que ça va finir par passer pour Kyle Shanahan, et je vais dire 24-20. Voilà, pareil, plutôt suspense fin de match, mais 24-20, je pense que ça peut tenir à ce niveau-là. Je suis pas sûr que ça se joue très haut quand même, parce que les défenses sont quand même solides.
De toute façon, c'est pas toujours les matchs les plus emballés offensivement, les Super Bowl. Pas toujours.
Sauf l'an dernier.
Pas toujours. Oui, bien sûr.
C'est vrai. Puis avec les Chiefs, on sait jamais. Les Chiefs, donc, pour Victor, les 49ers pour Lucas, les Chiefs pour Raphaël et les 49ers pour moi. Donc, pour l'instant, ça fait du 50-50. On n'a pas les pronos de Raoul et Greg et vous aurez les pronos de Raoul, de toute la rédaction, sur le site dans les jours à venir. Donc, mais ça se profile comme un Super Bowl très incertain dans les pronos.
Je crois que Raoul, il met match nul.
Oli, même match nul. Bon, de toute façon, là, il a plus de. Après, on peut lui mettre un bonus, tu sais, genre, il a 3 points s'il trouve qu'il y a une prolongation, mais là, c'est fini. Il va falloir qu'on lui trouve un gage. Donc, les pronostics, vous l'avez vu, ça va être un Super Bowl hyper serré et passionnant. On passe aux cotes de notre partenaire Unibet. Les cotes Unibet, messieurs, alors là, bon, les combinés, les YOLO, c'est plus dur, il n'y a qu'un seul match. Si vous voulez au moins la tendance du côté des paris en ligne et des bookmakers, c'est que les 49ers sont favoris. 1,62 la cote pour Unibet sur les 49ers, c'est 1,84 sur les Chiefs. Est-ce que dans ces cas-là, le pari évident, ça semble être les Chiefs ?
En tout cas, elle a évolué parce qu'elle était un petit peu plus serrée que ça. Je l'ai regardée en début de semaine, après les finales de conférence. Et elle était encore plus serrée. Je crois que c'était 1,70. Les deux étaient à 70. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui parient sur les 49ers.
Et ça veut dire que Vegas sait, c'est le cas de le dire d'ailleurs, puisque le Super Bowl a lieu à Las Vegas.
Ah bah s'ils savent pas là, ils savent jamais. Hein.
Donc voilà. Petite blessure de Chris Jones, mine de rien, qui est apparue sur le rapport des blessures. On s'en inquiète pas pour l'instant.
Mais... Oui, on s'en inquiète si ça. Oui.
On s'en inquiétera si ça dégénère entre le moment où on enregistre c'est et ça. Le moment où on met en ligne, parce que ça nous embêtera bien si on apprend que c'est une déchirure des ligaments croisés. Mais pour l'instant, au moment où on enregistre, ça a pas l'air trop inquiétant. Donc Chiefs 1,84. Est-ce que vous voyez des paris qui vous intéressent à l'intérieur du match ?
Pardon, hein, je précise, mais pour ceux qui veulent aller un peu explorer, on peut pas faire à proprement parler un combiné, mais sachez qu'il y a quand même l'option qui s'appelle MyBet dans les détails du match qui vous permettent de choisir plusieurs choses sur le même match et de construire comme une sorte de combiné à l'intérieur même du match. Voilà, sachez-le.
C'est vrai. Et ben tu nous construis quoi alors ? Genre j'ai mis Chiefs pour la première sélection. Total de points, plus de 47,5 ou moins de 47,5 ?
Ah mais calcul, hein, t'as dit combien ? 24-21 ?
Ouais, moi je t'ai dit 24-21, donc ça fait moins de 47,5.
Très bien, donc on rajoute ça. Donc là ça fait en effet grimper ta cote. Si déjà Kansas City moins de 47,5, ça fait une cote à 3,48. C'est pas mal, hein ?
Ouais. Bah si tu veux, moi j'en ai un, hein. Je m'en suis fait un, je peux avouer, j'ai même misé
dessus. Allez, vas-y.
J'ai même misé dessus, vas-y. Donc...
Vas-y.
Alors, du coup, c'est en allant sur le MyBet, j'ai Kansas City Chiefs vainqueur du match, j'ai total de points moins de 47,5, et j'ai le joueur marque 2 touchdowns ou plus, Isaiah Pacheco.
Ah, ok.
J'ai dit 24 points, ça fait 2 touchdowns, hein. Je veux dire, okay. Isaiah Pacheco, on l'a dit, c'est l'homme de Lucas, je pense aussi qu'il peut aller au bout. Et donc, ça me fait une cote de 22,95.
Bien joué! Ah yes, ah ouais, 5 euros misés, 114 euros de 75 de gain potentiel.
Voilà.
Et bah on va prendre le MyBet de Raphaël. C'est une bonne occasion pour vous de tester les MyBet. Vous pouvez combiner dans le même match comme ça. C'est une bonne manière de parier quand il n'y a qu'un seul match. Ça se passe sur unibet.fr. Donc là, pour Raphaël, c'est Kansas City Chiefs vainqueur, moins de 47,5. Et Isaiah Pacheco marque 2 touchdowns ou plus. La cote est à 22,95. C'est pas mal ça. Hein. Même pour 1 euro, du coup, ça fait 22,95 €. Donc, si vous voulez vous la tenter comme ça avec un petit euro, puisqu'évidemment, on rappelle, on joue de manière raisonnable, on se fixe des limites et on se fait aider. Je peux même vous donner le numéro d'ailleurs, 09 74 75 13 13, si jamais vous avez besoin d'aide au niveau des paris. C'est comme ça, messieurs, qu'on va terminer l'épisode 724 du podcast Touchdown Actu, dernière preview de la saison. Toujours petite émotion quand on est dans cette semaine là où on égrène, mais... Ceci étant dit, va y avoir quand même pas mal de matière, hein. Va y avoir le débrief derrière, va y avoir... Avant le Super Bowl, on va avoir Victor Roulier depuis Las Vegas. On va avoir un portrait. Demain, je crois que c'est demain. Demain, on a le portrait de CJ Stroud, probable futur rookie de l'année. On va republier la chronique pourquoi le Super Bowl s'appelle le Super Bowl. On aura Victor Roulier en direct depuis Las Vegas. On aura le débrief du match, évidemment, le lendemain du match. On aura un podcast qu'on n'a pas encore fait les années précédentes pour les enjeux de la saison suivante. On va fixer un petit peu les grandes enjeux de l'intersaison. En tout cas, on va se donner un peu ce qui nous intéresse, quel free agent, quel joueur à drafter, etc. On fera un petit truc comme ça. On fera peut-être un podcast sur les embauches de coach aussi pour finaliser tout ça. En tout cas, il y a pas mal de choses à venir. Et la team draft vous a proposé préparer un programme dingo. C'est-à-dire que Victor m'a proposé tellement d'émissions que je ne savais plus où on allait mettre celles qui parlent de joueurs déjà en NFL. C'est-à-dire qu'il m'a envoyé un planning. À partir du mois de mars, vous allez avoir 3 émissions draft par semaine. Donc on reste presque en quotidienne rien qu'avec la draft. Voilà, c'est, et ils feront 32 pastilles, etc., etc. Donc, voilà, on en reparlera d'ici là, mais il y a plein de choses. Les réseaux sociaux, Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram pardon @TouchdownActu. N'oubliez pas de bien les suivre d'ailleurs cette semaine, parce que on a deux personnes à Las Vegas, donc il va se passer pas mal de choses. Il y aura des photos, il y aura des vidéos, il y aura plein de trucs avec Victor Roulier et Mathieu Pasquier qui sont à Las Vegas pour vous faire vivre tout ça. TDActu.com pour tout le reste de l'actu, @Raphaël_TDA pour Raphaël, @ElVola pour Lucas. Merci beaucoup messieurs.
Merci, toujours un plaisir.
Et on se retrouve pour un excellent Super Bowl ce dimanche. Ce sera aussi le fauteuil du Super Bowl. Vous voyez, il y a tellement de trucs que j'en oublie. 21h minuit. Alors, c'est pas D-Full, 21h minuit, c'est Raoul chez nous. C'est presque, tu vois, c'est pareil. Raoul est sur TDA de 21h à minuit, dimanche 11 février.
C'est antenne libre
pour vous. C'est antenne libre, oui et non. C'est-à-dire que l'antenne sera ouverte aux chroniqueurs de TD Actu, mais c'est vrai qu'on fait pas...
Twitch libre.
Ouais, c'est ça. Twitch libre. Twitch.tv/TDActu. On se retrouve donc très très vite et toute la semaine et les suivantes sur les antennes de TD Actu. Merci à tous de nous suivre. À très vite. Ciao, ciao.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TD Actu. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TD Actu. Fumble pour JJ Watt, Beast Mode pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady Quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Ando.
And I'm Fer.
And we host Niñas Bien Podcast.
We want to invite you to listen to our show.
Niñas Bien means good girls in Spanish. But you have to know that this is not a podcast for good girls.
Or for girls at all. It is a comedy podcast. So everyone is welcome to listen.
We talk about sex, relationships, technology.
We recommend movies and TV shows and discuss pop culture in general.
And there is Chisme Ajeno too.
A section we have just to gossip about everyone. So you'll find something you like here.
And you'll practice your Spanish.
The cleanest Spanish you'll find, we promise.
And if you already hablas español,
vamos a ser tus nuevas amigas. We'll be your friends for the non-Spanish speakers.
New episodes every Monday and Thursday.
Hosted by Acast and available to all audio platforms.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.